je suis arrivé en 2012, 10 ans plus tard. Ça fait drôle à dire, mais ça m'a pris 10 ans. 10 ans avant de prendre la mesure des événements du printemps étudiant québécois. 2012, mémoire à faire. Une enquête orale sur un mouvement étudiant historique.
Premièrement, le legs n'est pas quelque chose de fixe. C'est pas quelque chose comme s'il y avait un verdict clair, disons, qui traversait les époques. Je pense que chaque époque va s'approprier ces événements-là à sa façon.
On fait ça souvent, hein? Commémorer les êtres humains, hein?
J'ai l'impression que c'est un peu comme si c'était hier.
Par un beau soir de février 2022, j'écoute la radio.
Si on avait peur de rien, si on changeait les nuits en jour, on jouait.
Je me promène sur la bande FM.
Max Avantage, vous voulez vendre avec nous?
Cherche quelque chose d'intéressant à écouter. Je tombe là-dessus, sur la radio de l'Université Laval.
Il est exactement 17h04, vous écoutez Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3.
Et surprenamment, ça parle du mouvement étudiant de 2012.
Il y a 10 ans, il est arrivé quelque chose de spécial en 2012. Je pense que tout le monde qui nous écoute en ce moment sait de quoi est-ce qu'on parle. On parle de ce printemps érable. Certains aiment ça l'utiliser, d'autres, ce concept-là est un peu volé du printemps arabe, mais on parlera pas de ça. On veut parler de cette commémoration-là parce que ça fait 10 ans que 2012 a eu lieu, cette crise étudiante, cette crise des carrés rouges, peu importe comment vous voulez l'appeler. C'est dans le cadre d'un comité qui s'appelle 2012 Mémoire à faire.
J'écoute ça, on est en 2022. Puis moi, Thomas Harton, étudiant en relations internationales à Laval, je retourne en 2012. En 2012, moi j'avais 13 ans. J'ai plein d'amis qui avaient aussi 12 ou 13 ans à l'époque. Je me demande comment ils ont vécu ça, eux. Moi j'habitais en banlieue. Quand je revenais en auto avec mon père, on entendait parler des manifestations à la radio. Lui aussi se promenait sur la bande FM. On se promenait de poste en poste.
Hey, je constate, on n'a pas parlé encore, on parle de beaucoup de maladies hein, depuis quelques mois déjà. Il y a eu la légionellose à Québec. Dans les journaux la semaine passée, on parlait de la montée des maladies transmises sexuellement, ouais. La chlamydia, la gonorrhée. Je pense qu'il y a un nouveau virus. Donc à défaut d'un autre nom, on va appeler ça le virus du carré rouge. On le sait, là, la majorité sont toutes appartiennent à tous des groupes crépuscules, genre d'extrême gauche que vous pouvez pas avoir au Québec. Peut-être que ça a fait du bien à bien du monde ce qui est arrivé dans les derniers jours, de voir des petits salauds se faire pogner en souricière par les polices, alors qu'ils étaient en train de se déguiser en noir avec le sac de briques.
Ah ouais, c'était comme ça que les radios de Québec parlaient des manifs. J'avais oublié. Le lendemain, quand j'arrive au pavillon de Deconinck, je demande spontanément à une de mes collègues, Pénélope Dagen-Lavoie, ce qu'elle se rappelle, elle, de 2012.
Moi, j'avais 12 ans. J'étais en région, justement, fait que il y avait pas... on n'entendait pas les casseroles, mais on en parlait beaucoup. Puis les gens de région vivent beaucoup par les nouvelles. Il se passe pas grand-chose des fois, fait qu'on se base sur ce qui se passe à Québec, à Montréal. Mais les gens en parlaient. La preuve que c'était un mouvement si gros, c'est qu'on n'avait pas nécessairement de répercussions en région. On n'entendait pas les casseroles, on n'entendait pas les manifestations. Il n'y avait pas de route de bloquer. Mais les gens en parlaient, puis les gens avaient une opinion.
Moi, j'avais pas encore d'opinion, mais je me posais beaucoup de questions. Pénélope, elle, était déjà sympathique à la cause.
Moi, j'étais encore trop jeune pour voir l'ampleur de la situation, pour comprendre qu'est-ce que ça voulait dire économiquement parlant, qu'est-ce que ça voulait dire politiquement parlant au niveau de l'équité. Mais il y avait quelque chose en moi qui sentait que c'était vraiment bien ce que ces personnes faisaient, puis qui était vraiment attiré vers le mouvement. Puis toute ma jeunesse, je me suis rappelé que je m'en voulais en gros guillemets, de ne jamais avoir été là. J'aurais tellement aimé ça, être dans la militance de 2012. J'aurais tellement aimé ça être au cégep ou à l'université parce que je le savais que j'aurais été hyper radicale puis avec les gens parce que c'était tellement un mouvement d'ampleur qui rassemblait. Puis ben là, en 2022, que ce mouvement-là revienne, que la manifestation à Montréal arrive, on dirait que ça m'a donné la chance, moi, à la petite de 12 ans qui regardait le mouvement, de pouvoir participer, puis de me rendre compte que j'étais encore inclus, tu sais, dans le fond. Puis j'étais inclus en 2012, en fait.
Puis moi? Est-ce que moi, j'étais inclus en 2012? Peut-être, mais c'est venu un peu plus tard. À rebours, comme on dit. J'ai continué à poser des questions autour de moi. Moi, j'étais en banlieue de Québec. Pénélope, elle, était dans le bas du fleuve, et Luc Carpentier, mon collègue du bac, était dans l'Outaouais.
Moi-même, j'étais très jeune à l'époque, j'avais 12 ans, donc je commençais le secondaire. À ce moment-là, je résidais dans une banlieue de Gatineau, donc il y a eu certaines actions à Gatineau, à Hull aussi, mais c'était loin de où je résidais, donc mon rapport était assez distant avec les événements de 2012 à ce moment-là. C'est vraiment rendu au cégep que je me suis mis à m'intéresser à 2012, à ce qui s'était passé. Moi aussi, j'ai commencé à m'impliquer dans la vie étudiante, dans l'association étudiante. J'en ai beaucoup discuté avec le permanent qui était également là à l'époque de 2012. Donc, c'est un thème récurrent lors des conversations. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à militer pour la campagne pour la rémunération des stages qui avait commencé en 2016. J'ai commencé à m'impliquer en 2017-2019. Puis, parmi le bassin de militants-militantes pour cette campagne-là, il y en avait plusieurs qui étaient assez vieux pour avoir connu 2012, pour avoir milité à l'université, au cégep. Donc, j'ai beaucoup appris d'eux. Ça m'a fasciné. Ça m'a vraiment donné le goût de m'impliquer aussi en écoutant leurs histoires, en écoutant les actions qui se passaient, les manifestations dans la rue. Puis, je voyais vraiment ces événements-là comme étant formateurs là, pour la suite des militants-militantes. Il y a aussi eu 2015 qui revenait beaucoup dans les conversations au sein de l'association étudiante puis de mes amis de l'époque. Puis ça a un peu continué, là, rendu à l'université. À mon arrivée à l'université en 2019, si je ne me trompe pas, j'ai continué à vouloir m'impliquer dans différentes actions sociales, dans différentes causes. Donc, je vois 2012 comme faisant partie du folklore presque, là, de la tradition militante au Québec. Ça a vraiment été des événements inégalés depuis.
Nommer le mouvement de 2012 comme faisant partie du folklore, wow! Ça veut dire que Loïc sous-entend qu'il y a une tradition, une mémoire de ces événements-là. Mais il manque quelque chose, comme une clé d'interprétation, une clé de lecture pour accéder à cette mémoire. Je me suis demandé comment faire. J'ai été voir Pénélope, la coordonnatrice générale de l'ASS, l'Association des étudiants et étudiantes en sciences sociales de l'Université Laval, puis je lui ai partagé ma question. 2012, comment ça s'est passé dans notre association?
En fait, nous, quand on a repris l'ASS, c'est sûr qu'on sortait de deux grandes années de COVID. Il y avait eu depuis plusieurs années une confiance qui s'était perdue envers l'ASS depuis plusieurs événements qui peuvent arriver. Là. Nous, on n'était pas là, mais on savait que la réputation n'était pas bonne quand on rentrait dans l'association. J'avais plusieurs amis de mes anciennes assos qui disaient qu'on devait se dissocier de l'ASS. Puis même moi, j'acquiesçais à ces blagues-là parce que l'ASS ne faisait pas grand-chose. L'ASS n'était pas tant que ça militante. Puis la COVID a juste donné un coup de hache là-dedans. Puis il y avait comme un problème de legs des informations au travers des années, dont le classeur dans l'association que personne n'avait la clé, qu'on retraçait plusieurs années derrière, personne ne savait. Donc finalement, nous, on a décidé de recommander une clé à l'université. C'était vraiment plus simple, ça nous coûtait 5 $. Puis finalement, on a pu ouvrir le classeur. Puis dans le classeur, à notre grande surprise, il y avait déjà beaucoup d'archives, des bilans financiers, des factures. C'était vraiment rempli. Puis on avait un entrepôt que j'étais au courant. Au début de notre année, l'université nous avait contactés pour aller faire le ménage dans l'entrepôt parce que des vieilles bières avaient explosé et puis ça coulait par terre. Mais après avoir tout nettoyé, on a découvert qu'il y avait des boîtes et des boîtes et des boîtes d'archives à décortiquer. Donc, on s'est dit en association étudiante qu'on allait monter un comité d'archives informel en Assemblée générale. Puis on s'est fait une soirée vraiment relax, on buvait des bières, puis on ouvrait ça, puis on arrêtait, il y avait tout le temps quelqu'un qui disait « Hey, mon Dieu, j'ai trouvé ça, une injonction contre la SS pour 2012, j'ai trouvé des plaintes », puis c'était vraiment juste le fun, puis c'est comme ça, en ouvrant les archives, que ça a donné l'idée à Pauline, celle qui était aux communications, de refaire une revue de sciences sociales, puis c'est juste qu'on trouvait ça magnifique que ça l'ait été gardé. Puis nous, après ça, on s'est dit, ben, nos affiches, nos revues, on va les garder puis on va les mettre là parce qu'on veut que dans 10 ans, en 2032, on puisse voir ce qu'en 2022, on a fait. Puis que peut-être que ça rallume une flamme pour certains parce que nous, de voir les archives, de voir tout ce que la SS a fait en tant que association militante, ça nous a vraiment ravivé une flamme. Là, je me rappelle, on est sortis de là, on avait l'adrénaline puis on aurait pu parler pendant des heures de temps après. Là. Fait que c'est vraiment ça que ça l'a fait, découvrir les archives. Ça a été... vraiment une belle expérience, je crois. Puis on était extrêmement reconnaissants et reconnaissantes que les années avant ne les aient pas jetées ou que la bière n'ait pas coulé dessus quand elles ont explosé.
Je me souviens de cette soirée-là. J'étais là. C'était une initiative du comité d'archives créée par l'ASS en 2022. On a ouvert des boîtes, on a dépoussiéré et dépouillé toutes sortes de documents. Des listes de présence lors des assemblées générales de grève de 2012. La poursuite qui a mené à l'injonction de Laurent Proulx. Des factures d'autobus pour aller à Montréal lors des manifestations nationales. Et j'en passe. Mon camarade Loïc a lui aussi participé à la soirée.
Littéralement, là, je pense qu'on a abordé cet événement-là, cette soirée-là, avec beaucoup d'excitation. On était très curieuses de découvrir ce qu'il y avait dans ces boîtes-là. Comme Tom a fait mention, c'était un peu la chasse au trésor pour trouver les boîtes. Puis ensuite, quand on a vu l'ampleur des archives, on avait juste vraiment hâte de sauter là-dedans. Puis je me considère vraiment chanceux d'avoir un cercle à l'université qui est autant intéressé par ces enjeux-là que moi, parce que quand on découvrait le contenu de chaque boîte, c'était un peu la cacophonie, là. Hey, regardez ce que j'ai trouvé, hey, regardez à propos de telle affaire, hey, telle chose dans un PV, regardez ce qui s'est dit. Puis en faisant tout ça, on a séparé le contenu pour après ça mieux se repérer, pour créer une trame, dans le fond, pour tout le monde qui n'a pas vécu directement ces événements-là. Tu sais, c'est important pour nous de bien comprendre l'esprit de la lutte à l'ASS, la lutte à Québec.
On a classé les documents. On voulait rendre le tout assez clair pour nos collègues. C'est vrai que c'était surprenant. Ce qu'on découvrait, c'était une réalité bien différente de notre présent en 2022.
Je n'étais pas au courant qu'il y avait eu autant d'actions que ça à l'université puis dans la ville de Québec. On voyait les statistiques là, de personnes arrêtées dans la ville de Québec. On voyait l'ampleur des assemblées générales. C'était vraiment impressionnant.
Au début, je me posais des questions de comment faire pour comprendre. Mais ça s'éclaircissait tranquillement en dépouillant les archives. Loïc m'a surpris avec sa vision des archives, justement.
Les archives nous ont coachés, je pense, pour l'avenir. Là. On n'a pas eu la chance de mobiliser directement dans notre parcours universitaire beaucoup. Il n'y avait pas de comme anciens, mettons, qui l'ont connu, qui pouvaient nous témoigner de leur expérience. Donc, ça a été via ces documents-là qu'on s'est replongé là-dedans. Puis, on était tellement crinqués en sortant de cette soirée-là. Sky était la limite, si je peux me permettre la traduction de l'expression. Puis ça nous a inspiré pour les causes actuelles. Il y a aussi la crise climatique qui va avoir plusieurs actions par rapport à ça dans l'année qui vient. Donc ça nous montrait qu'est-ce qui pouvait être fait en tant qu'action sur le campus, qu'est-ce qui pouvait être fait dans la ville de Québec. Puis qu'il y avait déjà des gens qui avaient passé par là avant nous. Donc on a comme compris que c'était possible, dans le fond, de mobiliser autant qu'en 2012.
On est engagé dans quelque chose comme une recherche. Par un soir de mai, je marche dans la rue et je vois une affiche de la table ronde « Archives et mouvements étudiants en France et au Québec ». C'est un rendez-vous pour mes amis et moi. Le 21 mai, on se pointe à la librairie Saint-Jean-Baptiste. Un gars avec une casquette de chiz s'assoit à côté de nous et nous dit « Vous êtes à bonne place ». Il nous pointe des gens dans la petite foule. Lui, c'est Jean-Philippe Legois, quelqu'un de sérieux. Il travaille avec Johanna Cassapi sur les archives des mouvements étudiants de mai 68 en France. Lui, c'est Paul-Émile Auger, un ancien coordonnateur de l'ASS. Lui là-bas, qui tient le livre, c'est David Widginton. Il collecte des archives des mouvements sociaux. Et elle, c'est Viviane Labrie, une ethnographe de longue date à qui il faudra absolument que tu parles. Le gars avec la casquette de chiz me dit « En passant, prends ce disque dur-là. » Il me le met entre les mains et s'éclipse. Derrière le comptoir, celle qui sert les cafés prend la parole.
Dans le fond, moi, ce que je me demandais, c'était, tu sais, quand je vais voir une expo, par exemple, genre, je trouve ça fascinant de voir ce qui a été sélectionné pour commémorer un événement ou une mouvance, par exemple. Mais pour avoir vécu 2012, c'est épouvantable la quantité de shit que j'ai ramassé chez nous. Comment on fait pour sélectionner qu'est-ce qui va représenter une mouvance, tu sais, parce que au moment où on le vit, c'est super difficile de distinguer, là. Il y a des gens qui mettent tout au vidange, d'autres que moi qui finissent ensevelis dans leur logement. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est digne de devenir une archive des mouvements étudiants?
J'apprends plus tard qu'elle s'appelle Karina Asburn et qu'elle était permanente à l'ASS à l'époque où il y avait encore des permanents à l'ASS. J'étais un peu intimidé par les gens dans la pièce, mais je prends mon courage à deux mains. Il n'y a pas une minute à perdre. Je pose une question à David sur ses archives, puis je lui propose de s'extraire un moment du groupe. On va sur la terrasse, à l'arrière de la librairie. On se présente.
Mon nom, c'est David Widgington. Je suis plein de choses. Je suis artiste indisciplinaire et je me nomme activiste. Alors, mon art et mon activisme sont indissociables.
Je lui demande comment il a commencé à militer, puis il me parle de ma ville, celle que j'ai pas connue.
Je suis allé à Québec pendant le Sommet des Amériques en avril 2001. Et pour moi et pour beaucoup de gens, c'était un moment de hyper-politisation, si on veut, parce qu'on a vraiment eu de la confrontation très violente avec l'État. Disons, il y avait la Sûreté du Québec, il y avait la police de Québec, il y avait même l'armée et la GRC, je pense, était là aussi, mais c'était pas évident, on les voyait pas. On voyait, disons, un peu le militaire, beaucoup la SQ, puis un peu la police de Québec. Et c'était un week-end très chargé émotivement et politiquement et plein d'actions et tout ça. Moi, je suis allé juste comme photographe. Je voulais prendre des photos pour documenter cet événement-là. Et je suis allé en auto avec plein d'autobus. Il y avait plein d'autobus qui sont partis de Montréal et ailleurs, du Québec et du Canada et des États-Unis. C'était quand même une grosse affaire. T'sais, alors, c'était comme tout un événement constant. C'était 24 heures sur 24, on était comme politisés, on parlait, on lisait, on faisait des réunions collectives pour prendre des décisions, quoi faire, tout ça.
C'est après ça qu'il m'explique comment il a commencé à collecter des archives.
À l'automne, il y avait, à Concordia, il y avait un atelier, une colloque sur l'art et la politique, dont je me suis inscrit. Alors, j'ai participé à ça. Ça a duré, je pense, une fin de semaine au complet. Et dans cette une des choses qui s'est passée, c'est qu'il y avait une présentation par les deux fondateurs du CRIP, le Centre de recherche en imagerie populaire. Puis ça, c'est un centre d'archivage, d'affiches, des mouvements sociaux du Québec. Ça, c'est leur spécialité. Alors, après que j'ai fini cette colloque-là, je suis allé les voir, puis ils m'ont donné intérêt de commencer à collecter des affiches du militantisme, parce qu'ils étaient très actifs à ce moment-là, après le Sommet des Amériques.
En 2011, David a commencé une maîtrise à Concordia. Son projet portait au départ sur le développement des médias au Sud-Soudan depuis la fin de la guerre. Début 2012, son assaut a voté la grève.
Et avec la grève, le mouvement de la grève, ça montait, l'énergie montait. Moi, j'étais en grève, je manifestais, je collectais des trucs. Puis je me suis dit, bon, peut-être je devrais changer de sujet. d'avoir accès à quelque chose vivant que je connais, que je suis dedans, j'étais complètement dedans. Et j'ai changé de sujet du journalisme plus vers l'archivage. Et je suis devenu intéressé à l'archivage du mouvement militant, des affiches et comme de tout en fait, du mouvement étudiant de 2012. Puis ça a commencé là.
Il me raconte ensuite comment ça se passait, sa collecte d'archives dans les manifs.
Alors moi, j'allais à ces manifs-là. J'allais aussi régulièrement aux manifs de jour. Il y avait les 22 du mois et en tout cas, il y en avait plein tout le temps. Et à ces manifs-là, il y avait des gens qui donnaient des tracts, puis je prenais des photos des bannières, puis des photos des pancartes pour les archiver. Alors j'archivais, tu sais, je prenais des photos sur mon disque dur, parce que c'était beaucoup de l'archivage numérique, parce que c'était en live, mais j'archivais encore des affiches, tu sais, des annonces de manifestations, les annonces de réunions pour voter pour la grève et pour s'informer sur la grève de tous les syndicats et tout ça. Alors ça continuait de façon naturelle. J'étais rendu comme sérieux. Il fallait créer comme un genre de plateforme pour les mettre quelque part, pas juste dans mon disque dur, pour les rendre accessibles. C'est ça, j'ai commencé sur Facebook. Puis le site Facebook est encore là avec tout le contenu.
La tête pleine de questions sur la construction de la mémoire, j'étais content qu'il me parle de ses manières de faire.
Tu sais, l'archivage, c'est pas tout le monde qui le font, tu sais. On n'est pas nombreux à archiver ou à collecter des choses. Moi, ma façon de collecter, c'est de collecter sur le vif, pendant que les choses se passent. Alors, depuis début 2000, tu sais, dans tous les mouvements que j'ai participé, dans tous les colloques, les présentations, tout, je prenais des affiches de les gens, puis les gens me connaissaient. Parce que ça faisait longtemps que je faisais ça. Tu sais, quand j'allais au Salon des anarchistes à Montréal, Exposine, c'est les gens qui vendent des affiches, dont politique, je les demandais pour des copies gratos, puis ils me connaissaient, puis ils me les donnaient, tu sais, avec plaisir, parce que ils savaient où ils voulaient que leur truc soit inclus dans, disons, dans la mémoire collective de mouvements sociaux au Québec. Alors, dans cet esprit-là, pendant la grève, tu sais, j'étais quasiment maniaque, parce que partout où j'allais, je voyais des tracts, des affiches, il y avait une présence partout dans la ville, tu sais, des tags, de la graffiti, des affiches, tu sais, dans l'espace public, c'est pas juste dans les événements organisés, mais juste comme dans l'espace public. Moi, je voyais des choses tout le temps, puis je prenais tout en photo, comme clic, un peu comme un fou. Tu sais, il fallait que j'aille tout le temps un sac avec moi, même si j'en ai régulièrement, mais c'est quasiment obligatoire, parce que je trouvais tout le temps des choses physiques à collecter. C'est comme je rencontrais quelqu'un, puis il s'en allait vers une manif, ou il s'en allait vers une présentation, ou une réunion, ou il revient de l'assaut étudiant, puis il vient d'imprimer, en tout cas, plein de choses que je prenais, tu sais, sur le vif, puis je mettais dans mon sac, puis pour éventuellement le déposer au CREP.
David me dit que c'est pas si simple, archiver des artefacts militants. Ça peut sembler niaiseux, mais c'est parfois les seules traces qui restent d'un mouvement plusieurs années après. C'est souvent avec ces archives institutionnelles-là qu'on va écrire l'histoire.
Et quand on pense archives, souvent c'est institutionnel. C'est la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Oui, c'est important, ils sont là, ils ont plein d'affaires importantes, officielles, gouvernementales, décisionnelles, artistiques, ils ont plein de choses.
C'est à ce moment-là que je lui parle de notre soirée de dépouillement à l'ASS. On a découvert plein d'archives qui sont pas répertoriées par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, mais qui sont super importantes par rapport à nos intérêts puis sur notre assaut. C'est là que je lui demande ce qu'on peut trouver sur 2012 dans ces grandes institutions-là.
L'institution nationale, publique, officielle, financée par les fonds publics, avait très peu de représentation des mouvements sociaux au Québec. C'est quand même important, à mon avis. Et ça m'a fait réaliser que mon travail était important. Et pas juste le mien, le travail des gens qui collectent des fonds des mouvements sociaux parce qu'ils sont très éphémères. T'sais, une manif qui se passe une telle date, t'sais, des affiches qui circulent comme avant sont peut-être mis sur des murs, t'sais, mis sur des babillards dans les cégeps, les universités ou ailleurs. Mais après la manif, on les voit plus. Soit ils en restent plus, ou sont mis aux poubelles, whatever, je sais pas, recyclage. Mais c'est très éphémère. Comme les bannières, les pancartes sont encore plus éphémères. Parce que, tu sais, à la fin d'une manif, à la fin de la première manif de 2012, le 22 mars, tu sais, c'était comme, il y avait 200, 250 000 personnes. À la fin, il y avait des centaines, comme vraiment des centaines, peut-être des milliers, je sais pas, là, c'est dur à comptabiliser, de pancartes. Tu sais, comme, il y a une photo qui s'appelle Beauchamp de pancartes. C'est un jeu de mots parce que Lynn Beauchamp, c'était la ministre de l'Éducation. Et il y avait des immenses pots de fleurs vides parce que c'était trop tôt dans la saison sur la place Jacques-Cartier. Puis des gens, quelqu'un a commencé, puis ont planté leur pancarte dans un pot. Puis plein de monde l'ont suivi, puis c'était comme un beau champ de pancartes en fait. Mais c'était pas juste là, tu sais, en arrivant à la station de métro. Il y avait des centaines, des piles, puis des piles de pancartes à la sortie, ou à l'entrée, en fait. Les gens les ont laissées en rentrant dans le métro. Tu sais, alors, il y en avait juste partout. Puis je me suis dit, il y a quand même une expression créative, politique, qui n'existe qu'on ne saurait jamais, sauf peut-être dans des photos. C'est pour ça que je prenais des photos. Parce que c'est éphémère, c'est disparu, on les verra plus, tu sais, au niveau physique. Alors, c'est pour ça l'importance du numérique, de collecter numériquement puis de rendre l'image accessible. C'est ça. Alors, c'est comme une archivage qui vient du bas, qui monte, c'est comme un anti-hiérarchique. Si on veut, on n'attend pas que les institutions officielles nous disent c'est quoi notre histoire. Parce que les mouvements sociaux, on les verra pas. Alors, c'est de nous de se le partager ou de se le faire valoir. Alors, c'est un peu ça ma façon d'archivage et l'importance que je vois dans le mode d'archiver en temps réel. Surtout des mouvements qui sont plus radicaux, moins acceptable, si on veut, et disons, action directe.
La journée se termine, et je repense à notre conversation. David Wiginton m'a parlé des débuts de son militantisme en 2001. Pour lui, ce moment-là a semblé aussi marquant que le sommet des Amériques. Après tout ça, qu'est-ce qui me reste de 2012? J'ai en tête un symbole. Un symbole et son histoire. De la manière qu'il a réussi à rassembler des centaines de milliers d'étudiants dans la rue. Un symbole comme le carré rouge.